Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Ceux qui ont manqué mon introduction tout à l'heure en début d'émission, je parlais du Gémeaux de mon ami Joanne Fontaine, meilleur rôle de soutien pour son rôle dans L'Imposteur à TVA. Puis je vous disais que ça n'avait pas été diffusé hier soir, mais effectivement, ça a été diffusé sur RTV. C'était en direct, c'était l'après-midi de dimanche. Donc, normalement, ça devrait peut-être repasser dans le courant de la semaine. Si vous êtes abonné à RTV, allez voir ça. Ça vaut la peine. Il y a plein d'autres artisans de notre télévision qui ont gagné des prix. On va enchaîner avec un autre sujet fort important. J'ai pas vu la première heure passer, je sais pas vous. Mais là, en plus, ça va passer encore plus vite. On va parler d'habitation. Vous savez que l'habitation, on parle coût de transport. L'autre gros coût important dans notre budget, c'est bien sûr le logement. On n'a pas tous les moyens d'être propriétaire. Puis par les temps qui courent, des fois, même être propriétaire, c'est check tes sous parce que c'est quand même coûteux. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont locataires. Vous avez vu aussi sans doute qu'il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de s'endetter pour se loger. Notre ami Ghislain Larochelle a fait d'ailleurs un article là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. On reviendra sans doute là-dessus au courant de la semaine. Mais je voulais qu'on en parle de l'habitation parce que il reste à peine 2 semaines à cette campagne électorale, puis avouez qu'on n'a pas dit grand-chose sur l'habitation, sur le logement. Puis je viens de vous le dire, c'est au cœur de nos vies. La bouffe, le logement, la façon de se transporter, c'est ça, là. C'est avec ça qu'on est obligé de négocier tous les jours. Il y a des dossiers importants qui méritent qu'on s'y attarde. Il y a l'accès aux logements sociaux. On dira jamais assez qu'il n'y en a pas assez. Ça fait des années qu'on le dit. Il n'y a pas de politique nationale de l'habitation au Québec. On est vraiment en besoin d'une réforme du droit de la copropriété qui n'a pas changé depuis 25 ans. Alors, il y a un débat qui va être organisé cette semaine sur l'habitation. Ça va être mercredi matin à Laval. L'occasion pour les partis politiques de se pencher un peu sur ces questions. Et la question que je vous pose ce matin, est-ce que ce serait pas le temps d'avoir un ministre de l'habitation pour faire avancer tous ces dossiers-là? Maître Yves Jolicoeur est avocat spécialisé en copropriété. C'est vraiment Monsieur Condo. Merci d'être là.
Bonjour.
Maître Jolicoeur, vous avez d'ailleurs lancé le regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec, le RGCQ. Vous avez créé le site condolégal.com, qui est un outil justement qui vulgarise toutes les questions relatives à la copropriété, puis faut acheter un condo pour se rendre compte à quel point on comprend pas comment ça marche. Alors, merci d'être là. Je pense que vous, un ministre de l'habitation, vous seriez en faveur de ça, hein?
Ben, certainement qu'on est en faveur. Ben, on en a déjà une. Lise Thériault est actuellement ministre responsable de l'habitation et malheureusement, ça n'a pas toujours été la sensibilité du gouvernement d'en avoir un ministre responsable de l'habitation. Donc, on espère que dans le prochain gouvernement, on aura un ministre ou une ministre dédiée à ce dossier-là.
C'est ça, parce qu'on le dilue toujours avec autre chose, puis souvent l'habitation, il ne donne pas vraiment de budget. Véronique Laflamme est porte-parole du FRAPRU. Bonjour Véronique. Vous êtes en faveur d'un ministre qui est vraiment les coups des franches, parce qu'un ministre sans portefeuille, c'est pas vraiment efficace, là.
Non, c'est ça. Nous, on est favorable, évidemment, parce que quand il y a un ou une ministre responsable, ça fait monter l'habitation plus haut dans la pile des priorités gouvernementales. Mais sans portefeuille, ça peut changer quelque chose. Mais en bout de ligne, comme on l'a vu cette année, les décisions qui sont prises, s'il n'y a pas les fonds qui viennent avec, ne vont pas amener de solutions concrètes. Et c'est ce qu'on a pu voir malgré la présence de Mme Thériault dans la dernière année, là.
Exactement.
Avant le déclenchement.
Vous participez à la marche de ville en village. C'est une marche qui part d'Ottawa jusqu'à Québec sur 28 jours. Vous en êtes où exactement, là, dans cette marche?
Aujourd'hui, en fait, là, on est dans le coin de Varennes. Moi, je suis justement là pour vous parler, notamment aujourd'hui, je ne marche pas, mais oui, effectivement, on est parti d'Ottawa le 2 septembre et on se rend à Québec. Donc, tous les jours, il y a entre 30 et 100 marcheurs et marcheuses qui traversent les villes et les villages du Québec pour faire parler là des nombreux problèmes de logement qui sévissent autant dans les villages que dans les grandes villes. On a pu parler des problèmes de Laval et de Montréal dans les derniers jours lors de notre passage par là, mais dans les prochains jours, on va traverser des plus petites municipalités là où il y a de nombreux enjeux là. Donc cet après-midi, les gens à l'heure où on se parle là sont dans le coin de Contrecoeur.
Et en théorie, vous devriez arriver à Québec à la veille des élections, genre. C'est bien fait pareil, hein?
Tout à fait. On arrive le 29 à Québec.
Vous dites au Québec, là, on continue d'ignorer ce qu'on devrait appeler, ce qu'on devrait reconnaître comme étant une crise permanente du logement. Qu'est-ce que vous voulez dire, Véronique Laflamme?
Ben, écoutez, selon les normes gouvernementales, on devrait pas consacrer plus de 30% de son revenu pour se loger. Vous l'avez dit d'entrée de jeu. Or, quand on regarde les dernières statistiques du recensement de 2016, on parle de plus du tiers des ménages locataires au Québec qui dépensent plus de cette norme-là en logement. Ça, c'est aussi le cas d'un certain nombre de ménages propriétaires, normalement qui se sont peut-être endettés pour justement acheter un condo ou accéder à la propriété. Mais pour les ménages propriétaires, c'est 13%. Donc, on voit que c'est vraiment les ménages locataires qui sont les plus concernés par les problèmes de capacité de paiement là, qui consacrent une part trop importante de leurs revenus au loyer. Mais là, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Quand on regarde le nombre des ménages qui paient plus de la moitié de leurs revenus pour se loger au détriment de leurs autres besoins essentiels, ce sont 195 000 ménages locataires au Québec actuellement là, qui paient plus de la moitié de leur revenu au loyer, donc ils doivent couper dans les autres besoins essentiels. Et quand on parle de crise permanente, c'est de celle-là, c'est la crise permanente des gens qui chaque jour doivent faire des choix déchirants pour leur famille, pour eux-mêmes, pour pouvoir payer le loyer, parce qu'on sait que quand on ne paye pas le loyer, ben c'est l'éviction assurée là. Donc des gens qui n'ont pas, on n'a pas le choix de payer son loyer, mais quand on n'a pas le revenu qui vient avec et quand il n'y a pas d'alternative, justement, vous en parliez également, il n'y a pas d'alternative au marché privé. C'est 11% du parc de logement locatif qui est du logement hors logique spéculative, qui est du logement sans but lucratif. Alors, pour les gens là, qui ne peuvent pas payer le loyer, il n'y a pas de solution. Donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de crise permanente. C'est des centaines de personnes qui, chaque jour, là, se demandent comment elles vont faire pour arriver et qui n'ont aucun espoir d'améliorer leur sort parce que les politiques gouvernementales sont absentes.
Mais, Maître Yves Jolicoeur, vous êtes vraiment dans le condo, dans la copropriété. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Est-ce qu'il y a une crise également de logement dans ce secteur-là qui est en pleine ébullition, qui est un phénomène quand même relativement récent, mais en pleine croissance?
Écoutez, ce que la copropriété cache, des fois, c'est des bâtiments en très mauvais état, qui sont, dans le fond, mal bâtis, qui sont en déficit, parce que lorsqu'on parle de 13 % du budget, c'est souvent 13 % parce qu'on cache les vraies dépenses aux propriétaires. Le fait d'être propriétaire, c'est pas accessible à tous dans un premier temps. Il y en a qui le deviennent et qui, dans le fond, parfois en payent le prix très cher. On a eu des cas où des gens ont perdu leur logement faute d'avoir la capacité de faire face à des cotisations spéciales. Alors, on bâtit actuellement des centres-villes en copropriété sans un cadre législatif performant. On parle de logement collectif, on parle de densification du territoire sans avoir une loi particulière qui s'occupe de ce volet-là. Et j'entends rarement parler aussi du statut des locataires dans nos copropriétés. En France, le cadre législatif laisse une certaine parole aux locataires dans les copropriétés. Il ne faut pas se le cacher, là. Beaucoup d'immeubles au centre-ville de Montréal deviennent des immeubles à logement. Parfois, ce sont les immeubles à logement qui sont la propriété de spéculateurs qui ne voudront peut-être pas trop investir sur un fonds de prévoyance ou un carnet d'entretien. Je pense qu'il y a un équilibre à faire entre le logement privé, qui est souvent mal vu comme étant un logement de bourgeois, alors qu'aujourd'hui, c'est un mode d'accession à la propriété pour bien des jeunes Québécois. Alors, il faut avoir un cadre législatif qui les protège. Trouver l'équilibre financier, ça, c'est important pour pas qu'il y ait une division de la part des Québécois à l'égard de ce logement collectif qu'est la copropriété.
Mm-hmm. Là, vous voulez, vous, entre autres, que le ministère de l'Habitation pilote une vraie politique nationale de l'habitation. Qu'est-ce que ça ferait comme changement d'avoir une politique nationale de l'habitation au Québec?
Bien, une politique nationale, c'est lorsqu'on veut densifier dans un territoire, entre autres, avec de la copropriété, avec une mixité sociale également dans certains projets, parce qu'on a une obligation d'avoir une mixité sociale. Mais ça prend une certaine profondeur de réflexion. Je suis vraiment à l'écoute de ce qui se fait en France. On mixe le social avec la copropriété. Parfois, ça, c'est bien. Parfois, c'est moins bien parce que la réflexion n'est pas complète. Je pense que c'est important parce que nos centres-villes là, vont se peupler en copropriété dans l'avenir. Hein. C'est soit l'argent de l'État qui va s'investir à faire du logement social ou soit que ça va être des propriétaires. Alors, si c'est des propriétaires, si c'est des jeunes ménages, bien, ça nous prend une politique qui va, dans le fond, les sensibiliser à ce que c'est être propriétaire parce que jour au lendemain, on dit à bien des locataires, j'entendais récemment une publicité, achetez un condo, payez pas de frais de condo pendant un an de temps. C'est illusoire. Ça coûte quelque chose mensuellement. Et souvent, on va bercer des locataires sur le fait de devenir propriétaire sans les préparer réellement au coût, mais également à ce que c'est de propriétaire, parce que c'est pas une nouvelle hôtel, la copropriété. Il y a bien quelqu'un qui va s'en occuper. Est-ce qu'on a des gens de compétence? Est-ce qu'on a des gestionnaires compétents? Est-ce qu'on a un carnet d'entretien? Et ça, actuellement, la loi là est obsolète sur le sujet.
Pourquoi on n'en parle pas de l'habitation?
Ben, c'est pas un sujet sexy. On prend pour acquis que les tours qui se construisent actuellement à Montréal, c'est un automatisme, ça va être au rendez-vous. Mais la réalité, là, c'est qu'on a, dans le domaine locatif, des bâtiments de plus en plus vétustes, en très mauvais état, des copropriétés qui doivent, dans le fond, fournir certains logis qui le sont de moins en moins en bon état. Alors, c'est sûr que c'est un sujet où les propriétaires n'ont pas tendance à se vanter sur la place publique en disant « ça va mal chez nous ».
Ouais.
Vous savez, ça va mal, on n'en parlera pas, ça va être un peu l'omerta en matière d'habitation. Alors, donc, l'important, c'est d'avoir une réflexion globale, pas juste sur le condo, mais tout ce qui est logement collectif, la densification du territoire, de quelle façon va-t-on la faire? Également, avoir une écoute, je suis d'accord avec madame, sur le logement pour les gens qui ont peu de moyens.
Mais du logement social au centre-ville, Véronique Laflamme, du Frappru, là, il s'en fait pas beaucoup, là, hein? Pour pas dire pas du tout, là.
Ben, pas du tout. Écoutez, pour tout le Québec, dans la dernière année, ce sont 700 logements sans but lucratif ou coopératif qui ont été construits pour tout le Québec.
Pour tout le Québec?
Pour tout le Québec, alors que ce sont 3000 qui étaient prévus au budget. Parce que le programme Accès Logis était insuffisamment financé. Alors, quand on parle de l'absence de solution, puis de l'absence de politique publique suffisante, c'est de ça dont on parle. Et votre question à savoir pourquoi on n'en parle pas est une excellente question. On se le demande nous aussi parce que quand on regarde les chiffres et quand on regarde les témoignages des gens qui sont mal logés, les conséquences sur leur santé physique et mentale, sur leur sécurité d'être mal logés, c'est dramatique, là. Ça a des conséquences sur beaucoup plus que ces personnes-là. Alors, d'ailleurs, le mot n'a pas été prononcé une seule fois durant le débat des chefs la semaine dernière. Alors, vous comprenez pourquoi on est rendu à faire une marche de 550 km pour faire parler des enjeux logement. Parce que c'est un enjeu qui devrait nous préoccuper. 700 logements, c'est vraiment le plus bas chiffre, là.
Ben, vous avez vu cet homme âgé dont la femme était malade et qui vivait, qui couchait dans sa voiture, dans un terrain vague, parce qu'il y avait pas de logement. Là. On est au Québec, là. On trouve ça bien épouvantable quand ça arrive à l'étranger, mais il y a du monde qui vit ça chez nous. Donc, vous allez me dire, peut-être c'est marginal, là. Il y en a pas beaucoup, des gens qui vivent dans leur char ici, mais quand même, c'est assez incroyable. Ben,
on en entend parler en Abitibi, des gens aussi, des fois sur la Côte-Nord, quand il y a eu les pénuries extrêmes de logements il y a quelques années en Abitibi et sur la Côte-Nord à cause du boom économique. Nous, on entendait parler même de travailleurs et surtout des travailleurs, mais que des travailleuses, mais qui dormaient dans leur voiture parce qu'il n'y avait pas d'endroit où coucher. Cette personne âgée-là, c'est qu'il n'y a pas, les personnes âgées qui ne peuvent pas se payer une résidence à 2 000 $ là. Elles vont où, ces personnes-là, quand elles peuvent plus payer, comme c'était le cas de ce monsieur-là, leur maison? Et c'est pour ça que ça prend des HLM et des OSBL d'habitation. Mais malheureusement, à 700 pour tout le Québec par année, les gens vont attendre longtemps. On parle de 40 000 personnes en attente pour un HLM seulement. Alors, à Montréal,
si vous aviez qu'une seule, il y a un débat mercredi matin là qui est organisé entre autres, il y a toutes sortes de groupes là, qui ont participé à ça. Évidemment, il y a les gens de la copropriété du Québec, il y a l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec, il y a le Bureau d'assurance du Canada, la Corpic là, qui représente les propriétaires du Québec, la FCIQ. Bref, il y a beaucoup de monde qui vont être là. Évidemment, Listerio, ministre responsable de l'habitation, député d'Anjou-Louriel, va être là. Mario Laframboise, député de Blainville, Carole Poirier, député de la Maisonneuve, René Vizina qui anime ce débat-là. Si vous aviez une question, Véronique, à poser, une seule, ça serait quoi? Quelle serait-elle?
Il faut parler des investissements. Combien vont-ils mettre pour financer le logement sans but lucratif, qui est le seul qui permet là, aux gens à faible revenu d'arriver, parce que les loyers sur le marché privé ils diminueront pas, sont trop élevés. Sans contrôle des loyers, il y a aucune autre façon là, de freiner la hausse des coûts de loyer. Alors, c'est les investissements dans le secteur, dans le logement social. Et malheureusement, durant la présente campagne, on a très peu d'informations dans les cadres financiers des partis. Et la CAQ, qui est la première dans la course actuellement, son seul engagement, c'est de ne pas financer de nouveaux logements sociaux. Alors, écoutez, c'est le seul parti qui va aussi loin et c'est le parti qui est le plus en avance. Alors, c'est d'argent qu'il faut parler parce qu'on peut bien avoir un ou une ministre responsable. Oui, c'est une reconnaissance de l'enjeu, mais si on a seulement une ministre comme Mme Thériault qui y croit, mais qui n'a pas de poids financier, c'est seulement une question d'apparence.
Oui, tout à fait. Mette Jolicoeur, avant la pause, si vous aviez une seule question à poser.
Bon, à quand une loi particulière sur la copropriété? Puis également, l'autre point, comment pérenniser autant le logement social que la copropriété? C'est bien beau créer des logements, même sociaux, mais on l'a vu par le passé avec la SHQ, si on n'a pas les moyens de les maintenir en bon état, on va se ramasser avec des logements avec des champignons dans un très mauvais état.
Parce qu'on n'a pas parlé d'insalubrité encore, mais c'est un gros dossier. Je pense que c'est un des plus gros dossiers qu'on a eu l'occasion de discuter ici à cette émission, entre autres l'insalubrité des logements. Je veux dire, ça devient un problème. À force de ne pas s'en occuper, à ne faire que regarder ça aller, ça empire. Et là, on dirait qu'il n'y a personne là, sur le bateau. Là. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un vrai capitaine à l'habitation? Comment vous voyez ça? Si vous aviez, vous qui nous écoutez, là, une seule question à poser en matière d'habitation, quel est l'enjeu qui vous préoccupe? Quelle serait cette question? 514-790-9850, ça en ferait le 1-866-790-9850. On se demande ce matin, est-ce que ça serait pas le temps d'avoir un vrai ministère de l'habitation qui a du poids, qui a du budget qui vient avec? Parce qu'un ministre responsable, je pense que Listerio, qui est la ministre sortante à l'habitation, était bien occupée avant ça que ses dossiers judiciaires. Et bref, ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que Maître Jolicoeur me rappelait pendant la pause qu'elle avait déposé un projet sur la copropriété, un projet de loi, mais juste avant que les travaux de l'Assemblée nationale finissent, ça s'est fait un peu sur le bord de la table.
En fait, l'UTT de Listerio, le Parti libéral, a manifesté réellement aucune sensibilité pendant ses 4 ans au pouvoir. C'est sûr que Listerio, c'est une ministre qui a du panache, je ne sais pas l'expression, elle nous a dit, vous savez, on va en déposer un, on a déposé un. Il y a eu quand même une modification au droit des assurances qui a été déposée également en juin, mais je vous dirais un peu trop tard. Alors, on espère que le prochain gouvernement, qu'il soit libéral, caquiste ou peu importe, Parti québécois, démontre une volonté. D'ailleurs, les 3 partis politiques dans leur programme ont pris l'engagement de poser des gestes utiles en matière de sécurité. Et la CAQ, de son côté, est d'accord avec notre prise de position au niveau du RGCQ, c'est-à-dire d'avoir une loi particulière, comme le reste du Canada d'ailleurs, sur la copropriété, de telle sorte qu'on pourra la faire évoluer, n'est pas au quart de siècle, parce que notre dernière réforme législative date de 1994, la précédente de 1969, alors que toutes les provinces canadiennes font évoluer leur droit de la copropriété de façon assez exceptionnelle.
Ouais.
Donc, on est en déficit de législation, puis on espère réellement que le prochain gouvernement va manifester.
Véronique Lafemme, vous êtes porte-parole du FRAPRU, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain. Vous existez depuis très longtemps. On connaissait bien votre ancien président, François Saillant. Tout à l'heure, je parlais de ce débat qui va avoir lieu sur l'habitation. Ça va avoir lieu à Laval. Il y a Mario Laframboise de la CAQ, il y a Carole Poirier du PQ qui va être là, Listerio du PLQ. Puis je cherchais, je me dis, coudon, il manque Québec solidaire. Il n'y a pas de position de... Québec solidaire n'a pas cru bon d'aller... Je vous pose la question à vous, parce que j'imagine que vous êtes près d'eux, non?
Non, on est le FRAPRU, on est une organisation non partisane là. Alors, on a malheureusement pas plus de contacts là. On peut pas répondre pour un parti, mais je dirais que c'est surprenant parce que c'est le seul parti qui a une politique en fait qui répond à nos demandes d'engagement là et qui s'engage à construire 50 000 nouveaux logements sociaux durant le présent mandat. Mais là, je peux pas vous dire.
Québec solidaire, c'est le seul parti qui a aucune prise de position sur la copropriété malgré qu'on les a invités à plus
d'une
reprise.
Parce que le monde qui habite dans des condos, c'est des pleins aux as bourgeois.
Ça doit être à leur esprit des grands bourgeois pleins d'argent, alors que la réalité de la côté, c'est loin d'être des grands bourgeois avec plein d'argent. On trouve ça regrettable qu'un parti politique qui veut être formé le prochain gouvernement il n'y a pas d'idée sur un sujet aussi important que la densification du territoire en matière de copropriété.
Ouais. On a Mathieu.
Mais Maître Jolicoeur, si je m'abuse, par contre, la politique d'habitation que vous demandez et que nous demandons également se trouve dans la plateforme de Québec solidaire. Donc, la question de la politique nationale d'habitation qui est revendiquée par plusieurs, là, dont nous, se retrouve dans cette plateforme-là. Malheureusement, on n'a pas d'engagement des autres partis sur le sujet. Et effectivement, une politique nationale d'habitation permettrait d'englober là, l'ensemble des interventions qui sont demandées au gouvernement québécois pour améliorer les conditions de logement à travers la province.
Ils ont été invités, Québec solidaire, au débat?
Québec solidaire a été invité.
Tu fais un débat sur l'habitation, Québec solidaire, il ne va pas, je ne comprends pas.
En tout cas, à ma connaissance, ils ont été invités. Je n'ai lu aucune ligne dans le programme de Québec solidaire. Écoutez, ça fera plaisir que le Québec solidaire me corrige. Je n'ai vu aucune prise de position à l'égard de la copropriété divise dans leur plateforme électorale, à moins, évidemment, que quelque chose m'échappe.
Oui. On a Mathieu Lecaque avec nous, qui est journaliste à Gatineau. On en profite pour saluer tous les gens de la région. Bonjour, Mathieu.
Allô, Isabelle.
C'est comme propriétaire de logement que tu nous appelles, en fait, là.
Oui. Là, je dépose mon chapeau de journaliste. Je le mets de côté. Tu sais, quand on regarde nos cours d'économie familiale au secondaire, on apprenait les besoins essentiels, là, se vêtir, se nourrir et se loger.
Ben, la pyramide de Maslow, mon cher, c'est ça?
Ben, tout à fait.
Les besoins primaires.
Quand on regarde,
ouais.
Quand on regarde la construction neuve, le condo, la régie du logement, un ministre aurait sa place. Moi, je parle vraiment là, dans la partie régie du logement et, ouais. et en termes de délai qu'il y a là. Là, tu sais, je raconte une anecdote rapidement. L'été dernier, on a pris une maison, le transformant en duplex. La maison, le logement est flambant neuf, Isabelle. Là. Puis, tout au long du premier mois, la locataire critiquait. Et même, je voyais le logement là, quasiment se détruire, se détériorer à vue d'œil. J'ai tout simplement offert de quitter. Ça m'a coûté entre 1150 et 1200 $. J'avais pas le goût d'aller perdre un an et demi à la régie du logement. Là. J'ai dit, vous l'aimez pas, madame, quittez, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner une quittance pleine et entière, aucun frais. Puis, par la suite, j'ai su que la dame ne s'était même pas branchée à Hydro-Québec. Donc, comme propriétaire, quand on peut éviter la régie du logement et faire des ententes hors cours, ben c'est ce qu'on fait parce que malheureusement, on sait que c'est pas une question ouais. d'appui ou pas de la part de la régie du logement. C'est ouais. une question que ça prend. J'ai déjà vu, moi, 30 mois une cause à
la
régie.
Ah non, mais c'est clair. Sur les délais de la régie du logement, je veux dire, là-dessus, on n'avance pas. Là. Ça fait des années, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. On a François-Vincent qui est avec nous. Il est de la PCHQ. Bonjour, M. Vincent. Vous voulez finalement faire un point là, sur Québec solidaire?
Oui, on a reçu la confirmation de Québec solidaire. C'est Simon Charron qui a ils ont répondu à 17h16 vendredi dernier. Donc, nous aurons les quatre partis politiques pour le débat qui est organisé par plusieurs organismes.
Bon,
la PCHQ,
ils ont fini par allumer. Ben oui, ils ont allumé.
Oui,
ils
seront tous là.
Ouais, bon, vous, à la PCHQ, puisque vous êtes là, ça serait quoi votre désir? Si vous aviez une seule et même question à poser au prochain ministre de l'Habitation?
La planification, comme Maître Jolicoeur a parlé, d'avoir une politique de l'habitation, un ministère de l'habitation, c'est un minimum. L'habitation, c'est 29,2 milliards de dollars. C'est plus que 7 % du PIB. Il y a 172 000 emplois partout à travers le Québec. Ça touche l'ensemble des individus. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de ministères qui s'en occupent, puis on n'a pas une coordination puis une vision d'ensemble. Donc, avec un ministère puis une politique, on pourrait avoir des investissements, des objectifs ciblés en termes de logements sociaux, de copropriété, d'accès à la propriété. C'est vraiment un engagement que les groupes aimeraient beaucoup avoir pour justement l'Habitation Québec.
Bien dommage, franchement. Merci beaucoup, François-Vincent. Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Yves.
Oui, ça serait, moi, pour changer certains règlements, peut-être, si ça arrive, comme la taxe de bienvenue qui est exorbitante là, sur certaines résidences. Comme un couple qui se sépare, faut qu'il repaye encore la taxe de bienvenue si un ou l'autre garde la maison. Là. C'est ridicule là, comme règlement. Là. C'est comme... C'est comme exagéré, là. Ça serait un règlement à changer, là, éventuellement, là, j'imagine. Là.
OK. Êtes-vous péquiste, vous? Parce que ça a l'air que ce matin, il me semble, j'ai vu passer ça, que Jean-François Lisée en parlait de la taxe de bienvenue. Il veut réduire la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs de maisons.
Oui, oui. Mais moi, ça serait plus pour abolir la deuxième taxe qui vient si un couple se sépare là, ou quoi
oui.
que ce soit. Là,
oui, 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 tout à fait.
C'est
oui.
comme, donner un break. Mais il y a aussi un règlement qui existe que les notaires ne disent pas vraiment, ils disent sur le bout des lèvres, il faut vraiment poser des questions. Quelqu'un qui se sépare va payer sa taxe de bienvenue à plein montant, sauf que si les papiers se font en dedans de 3 mois, là, tu as juste à payer un 200 $ tout simplement, au lieu de payer un 16 ou 1500 $ de taxes de bienvenue.
Je ne suis pas sûr, mais on a un avocat qui s'y connaît bien, Maître Jolicoeur.
Écoutez, je ne suis pas au fait de détails, effectivement, l'exonération de TPS-CVQ. Je sais qu'il y a une exonération qui existe lorsqu'on cède sa maison à un parent. Donc,
ouais,
c'est prévu. J'ignore, dans le cas d'une séparation, comment la chose est traitée. C'est une question qui est peut-être tout à fait justifiée. Mais je pense que les Québécois ont peut-être des fois un peu marre de payer des taxes juste parce que dans une procédure gouvernementale, ça n'a aucun sens, ça, c'est certain.
Ouais. Effectivement. Merci, Yves, de votre question. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, en terminant, mot de la fin.
Ben écoutez, il faut mettre le logement sur la pile des priorités. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette marche là de ville en village pour le droit au logement. Il y a trop de personnes qui sont touchées, il y a trop de conséquences sur l'ensemble de la société, hein. Les gens qui sont malades parce que leur logement est insalubre, ouais. Les gens qui vivent dans un logement trop cher puis qui se privent de bien manger parce que pour payer le loyer, ça a des conséquences et il faut vraiment en faire une affaire prioritaire. On espère que ce sera le cas dans les deux prochaines semaines de campagne. Et ministre ou pas, il faut que les investissements suivent.
Ouais,
on a vu que Madame, malheureusement, on a beau avoir une ministre responsable depuis plusieurs mois, en fait, à mi-mandat, on a eu une ministre responsable, ouais. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à faire déboucher la mise en œuvre d'une réforme du programme Accès Logis qui est sous-financé, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a occasionné toutes sortes de délais partout à Montréal et dans les autres villes là, du développement des logements sociaux promis, pourtant et prévu dans les budgets. Alors, ouais. Il faut, oui, peut-être un ministre responsable avec portefeuille, et sinon, il faut des engagements suffisants.
Merci.
Et là, il faut que les partis se commettent. Merci.
Merci beaucoup, Véronique Laflamme. Je rajoute donc ce mercredi, ça va être une journée logement. On se souvient de ça, mot-clé, c'est logement parce que, bon, il y a une journée thématique justement avec le regroupement des comités logement et d'aide au logement du Québec. Évidemment, le Frappru, ça marche. Je pense que tout le monde peut se joindre à la marche, j'imagine. Et bien sûr, il y a mercredi ce débat électoral sur l'habitation avec tous les candidats. Donc, Québec solidaire s'est enjoint à la toute dernière minute. Ça va être au centre des congrès Palace, boulevard Le Corbusier à Laval. C'est le matin, n'est-ce pas?
Exactement.
Merci beaucoup, maître Yves Jolicoeur. Merci beaucoup, Véronique Laflamme. On reparlera d'habitation. Merci bien. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Êtes-vous capable de faire manger du brocoli, des épinards puis du kale à vos enfants?
J'ai ici, c'est sûr, c'est probable.